Immaculée, Jean-Gilbert, bonjour, Marie-Huguette, bonjour, Didier, ça fait longtemps, bonjour, Gérard, Denise, bonjour. La belle-mère, bonjour. Hermana Glenda, que Dios me la bendiga. Y un abrazo a mi querida Heidi. Que Dios me la bendiga ricamente. Y también a la nena. Alors Didier, c'est ton anniversaire aujourd'hui, donc on te souhaite un joyeux anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de mon père. Donc à vous deux, on vous souhaite un très très joyeux anniversaire. Alors à tous ceux qui nous écoutent, ne manquez surtout pas de saluer Didier en cette journée d'anniversaire. Et de saluer mon père aussi, pour qui c'est un 75e anniversaire. Bonjour Manon. Bonjour au pasteur André aussi. Donc mon père vient d'apparaître. Alors s'il ne m'a pas entendu. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, de même que l'anniversaire de Didier. Et à tous les deux, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Mercredi 4 mai 2022, journée pluvieuse. Ça a commencé durant la nuit et ça se poursuit tout au long de la journée. Mais après ça, vous allez avoir 4 ou 5 jours de soleil, dont des belles journées pour le week-end. Un samedi et dimanche, il va faire beau. Lundi aussi. Merci Guy, sois béni toi aussi. Ni hao, yaoi. God bless you. Ginette, Gaëtan, bonjour. Content de vous avoir avec nous. Ginette et Gaëtan qui nous regardent depuis la jolie ville de Shawinigan, où on a habité pendant un an et demi environ. Bonjour Pascal. Bon chemin jusqu'au travail. Salut la belle-mère. Shalom à vous. Donc aujourd'hui, deux rendez-vous, bien entendu, celui qui commence à peine. Donc ce matin, et puis à 19h ce soir pour l'étude biblique. Marie-Marthe, bonjour. Claude, Bernard, Déborah, Léa, Marcus, bonjour. Merci Pascal. Nathalie, bonjour. Et bonjour bien entendu à la petite famille. reste encore 3 ou 4 minutes avant que nous ne débutions ce matin. Ça vous donne tout le temps de saluer Didier, dont c'est l'anniversaire, et mon père aussi, dont c'est l'anniversaire. Vous avez aussi le temps d'aller vous chercher un petit quelque chose à grignoter et ou à boire. Bonjour France, bonjour Patrick. Bonjour Max, très content de t'avoir avec nous ce matin. Salutations à Noémie aussi. On continue à prier pour vous deux. Merci Ginette. Je transmettrai les salutations à Daphné. Elle est au travail actuellement. Yolaine, bonjour. Pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible dans le passage qu'on étudie aujourd'hui, c'est donc dans Exode au chapitre 24. Max, j'espère que vous allez bien. Jésus est ici, il est avec vous. Bonjour à la sœur Nancy. Merci Yolaine. On va bientôt commencer, mais vous avez encore l'occasion donc de vous saluer. Bonjour Rosie. Hermana Argelia, que Dios me la bendiga. Alors, merci à tous ceux qui prennent le temps de saluer Didier et mon père, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si elle m'écoute, mais une salutation toute particulière aussi à Sampa Wende, Wenaning Barka, et puis je ne sais pas comment dire joyeux anniversaire en Moré, donc je te le dis en français, que Dieu te bénisse. Myriam, Donald, bonjour. Babette, Andreas, la petite famille, bonjour. Alors on va prier et on va débuter et puis continuer à saluer vos gens. Bonjour à mon épouse que je vois se connecter à l'instant. Donc c'était qui avait transmis les salutations tout à l'heure pour Daphné? Oui, c'était Ginette. Donc Daphné n'aura qu'à remonter un peu les échanges et elle verra les salutations. D'accord, alors prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Cette occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole, une parole qui nous abreuve, qui nous nourrit, qui nous transforme, qui nous change. Un rendez-vous que tu as fixé avec nous de toute éternité pour répandre ta grâce sur nous et nous accorder les instructions dont nous avons besoin pour mener à bien notre vie et pour vivre notre vie comme il t'est agréable. Alors Seigneur, bénis ma soeur, bénis mon frère, on bénit particulièrement Didier, on bénit aussi mon père dont c'est pour tous de l'anniversaire, on bénit aussi Sampawende pour qui c'est aussi l'anniversaire, on te demande de les garder, de mettre ta grâce sur chacun d'entre eux. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à tous en cette journée du mercredi 4 mai 2022. On poursuit notre étude de la phrase que le pasteur Sergio a utilisée comme base pour la prédication de dimanche dernier. Phrase qu'on retrouve dans Exode au chapitre 24, les versets 12 et 13. Exode 24, versets 12 et 13. Et la phrase particulière, donc, est là-dedans. On va quand même relire ces deux versets. Et après ça, on reprendra la phrase deux ou trois fois, tous ensemble, simplement pour permettre à la dite phrase de bien s'imprégner en chacun d'entre nous. Alors, Exode 24, le verset 12 nous dit « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables, des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Je répète, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Et la phrase toute particulière, monte vers moi sur la montagne et reste là. Monte vers moi sur la montagne et reste là. Une dernière fois, tous ensemble, là où vous êtes, monte vers moi sur la montagne et reste là. Alors, on a déjà deux journées où on a étudié le début de la phrase. Donc, on a vu le verbe monter, qui est le terme hébraïque ala, qui veut dire grimper, faire l'ascension. On a vu que pour monter vers Dieu, pour s'élever jusqu'à lui, il fallait donc entendre et répondre à l'invitation de Dieu. Il fallait accepter de quitter son emplacement initial pour se porter vers l'endroit où Dieu nous fixe rendez-vous. Il fallait viser l'élévation par rapport à notre contexte initial. Dieu ne nous appelle pas à régresser, Dieu ne nous appelle pas à stagner, mais à aller de l'avant, à progresser, à s'élever. On a vu qu'il fallait aussi fournir un effort propre à l'ascension. Si le salut est gratuit, l'intimité avec Dieu va requérir des efforts, va requérir du travail, va requérir du temps, va requérir du temps de qualité qu'on va consacrer à Dieu. Et enfin, on a vu qu'il nous fallait poursuivre cet effort de recherche de la face de Dieu et de proximité avec Dieu tout au long de notre existence. Hier, mardi, on a vu le groupe nominal « monte vers moi », qui est traduit en hébreu par un seul terme, le terme « el »,« el », qui veut dire « aller en direction », donc s'orienter vers Dieu, orienter notre vie vers Dieu, l'avoir comme objectif pour notre existence, qui veut dire aussi « aller vers », qui veut dire aussi « aller jusqu'à », donc s'engager à atteindre Dieu, prendre cet engagement de nous porter vers Christ, mais de ne pas s'arrêter tant que nous ne serons pas avec lui pour l'éternité là-haut. Monte vers moi en rapport à, donc avancer à cause de Dieu. Faire cette progression dans notre foi, non plus pour ce qui peut nous être accordé parce qu'on s'est approché de Dieu, mais nous approcher de Dieu parce que Dieu en vaut la peine, parce que Dieu le mérite, parce que nous l'aimons. Alors ne plus vivre notre vie avec cette pensée de connaître ou de savoir qu'est-ce que ça nous rapporte de faire un tel effort, quelles sont les conséquences, quelles sont la rémunération de servir Dieu et de naviguer vers lui, mais plutôt de le faire tout simplement à cause de qui il est. Et enfin, monte vers moi, elle qui veut dire aussi en accord. Et on se rappellera ce verset dans le psaume 24, du verset 3 au verset 5, où on va nous poser la question, mais alors qui va se monter à la montagne de l'Éternel? Qui va être capable de se présenter devant l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et le psalmiste va répondre, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alors c'est à travers le processus de sanctification qu'on peut effectivement s'approcher de Dieu. Donc monter vers lui en accord avec lui. Donc monter, avancer selon la pensée de Dieu en menant la vie, l'existence qu'il désire que l'on mène, en vivant selon les préceptes, selon les recommandations de Dieu. Et aujourd'hui, on s'arrête strictement sur le mot montagne. Monte vers moi sur la montagne. Monte vers moi sur la montagne. Montagne, c'est le terme har, H-A-R en hébreu. Donc montagne, har, H-A-R. Et ce mot-là va être donné à tout, à toute montagne, quelle qu'en soit l'envergure. Donc qu'elle soit une grosse montagne telle que l'Everest, tels que les sommets élevés des Alpes et des Pyrénées ou des Rocheuses, ou que ce soit tout simplement une petite, une petite montagne comme le Mont Royal qui, oui, quand on monte en vélo, pour quelqu'un qui n'est pas trop en forme, ça peut être très pénible, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de faire du vélo, ça reste une toute petite montagne. Donc, le mot « har » va aller pour un mot, une montagne, une butte, un sommet. Aujourd'hui, on va regarder quelles pourraient être les symboliques qui sont reliées à la montagne. Quand on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on va voir des parallèles dans l'utilisation de la montagne, dans ce qui se passe à la montagne, que vous regardiez le Nouveau ou l'Ancien Testament, on va se rendre compte dans l'Ancien Testament, Dieu fixe très souvent rendez-vous à son peuple à la montagne, au Sinaï, la montagne de Sion, au mont Morija, au mont Carmel. En contrepartie, on se rend compte dans le Nouveau Testament qu'il y a aussi une emphase sur, sur la montagne. Le pasteur Sergio en faisait une énumération probablement plus exhaustive que celle que je vais faire ce matin. Mais on se rend compte dans le Nouveau Testament qu'il y a tout d'abord le mont des Oliviers, qui est à côté de Jérusalem, dans lequel Jésus allait régulièrement passer du temps, voire des nuits. Il y a le mont Golgotha, l'endroit où Jésus a été mis à mort. Et Golgotha, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire le mont Crâne, ou le mont Calvitie, parce que c'était une montagne qui était dépourvue à son sommet de végétation. Donc on l'appelait le mont Crâne. On va se rendre compte que Jésus va aussi fixer rendez-vous à ses disciples sur une montagne en Galilée, dans cet endroit où va se passer l'ascension, dans cet endroit où Jésus va donner des prescriptions à ses disciples, notamment avec cette phrase « Allez par tout le monde, faites des disciples de toutes les nations ». Et Jésus va leur dire, et c'est la thématique de cette année pour nous en tant qu'église locale, « Je suis avec vous, voici, je suis avec vous, à tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Toutes ces rencontres-là se passent sur les montagnes. Alors oui, la montagne a un aspect tout particulier pour le croyant. Pas que la présence de Dieu y soit plus forte qu'ailleurs. Puisque Dieu remplit l'univers, s'il le remplit, ça veut donc dire que la plénitude de sa présence se trouve dans la vallée comme dans la montagne. Mais il y a parfois des tournures de cœur, une attention, une attitude de cœur qui est différente dépendamment de l'endroit où on se trouve. Pour clarifier, oui, dans la pensée judaïque, on montait à la montagne parce qu'on avait cette image, un peu erronée, mais qu'on perpétue encore jusqu'à aujourd'hui, que Dieu est au ciel. Donc, si on montait sur la montagne, on était donc géographiquement, entre guillemets, plus proche de Dieu. Cette notion de s'approcher de Dieu va revenir constamment dans la parole de Dieu, qu'elle soit géographiquement vraie ou fausse, puisque Dieu remplit tout endroit. Le psalmiste va tellement bien le dire lorsqu'il dit: je pourrais aller dans les profondeurs de la terre, je pourrais monter jusqu'au troisième ciel et tu y serais encore, je pourrais aller jusqu'à l'Orient, je pourrais aller jusqu'à l'Occident, et là encore, t'y voilà. Donc le psalmiste disait: regardez, il n'y a pas une différence entre un endroit et un autre, la présence de Dieu l'habite. La présence de Dieu le remplit, cet endroit. Alors peu importe où on se retrouve, on a accès à cette présence. Par contre, effectivement, la montagne, il s'y passe des choses particulières. Premier point qu'on peut trouver, à chaque fois, je vais essayer de faire le lien entre un exemple dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors tout d'abord, la montagne, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. On le voit ici dans ce passage d'Exode 24 où Dieu est en train de dire à Moïse de monter vers lui jusqu'au sommet de la montagne et d'y rester, et qu'à cet endroit, il va effectivement lui donner les tables de la loi, les tables de pierre sur lesquelles Dieu va inscrire la loi. Dans le Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus va aller au mont des Oliviers très régulièrement pour parler à Dieu, pour prendre du temps de prière. Donc, tant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, il y a cette notion de montagne comme un temps étant un lieu de rencontre avec Dieu. Pour nous qui voulons voir Dieu, pour nous qui menons une vie où nous voulons toujours connaître une proximité plus intime, plus rapprochée quotidiennement avec Christ, la montagne va donc avoir cette connotation, cette image de rencontre avec Dieu. Nous sommes invités à cette rencontre. Et là, c'est un joli jeu de mots qu'on pourrait faire. C'est une rencontre au sommet. Nous avons ces rencontres au sommet avec Dieu, ces rencontres intimes qu'il veut avoir avec nous, où il nous instruit, où il nous parle, où il se laisse découvrir à chacun d'entre nous. Donc, lorsque le Seigneur nous dit de monter vers lui, de monter jusqu'à la montagne, c'est dans le premier objectif d'une rencontre entre nous et lui. Deuxième image de la montagne, c'est un lieu d'instruction. Pensons à cette rencontre que Moïse s'apprête à avoir avec l'Éternel. Il y a un objectif tout clair. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour l'instruction du peuple. Donc Moïse va recevoir non seulement les tables de la loi, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque, les 10 commandements. Qui se trouve dans le Pentateuque plutôt, et donc il reçoit les 10 commandements qui sont écrits, le Décalogue, qui sont inscrits sur les tables de pierre, sur des pierres plates, dans lesquelles Dieu va graver ces 10 commandements importants et qui vont servir d'instruction pour le peuple. Mais dans cette rencontre que Moïse va avoir pendant 40 jours avec l'Éternel, ce n'est pas juste les 10 commandements qu'il va recevoir. C'est aussi l'ensemble des textes qu'on va retrouver dans Nombre, dans Lévitique, dans Deutéronome, où on voit Dieu qui est en train de donner des instructions, où il est en train de dire au peuple à travers Moïse: voici ce que je veux de vous, voici ce que j'attends de vous. Donc c'est un lieu d'instruction. Dans le Nouveau Testament, une des premières rencontres publiques que Jésus va avoir au début de son ministère, c'est ce qu'on appelle le fameux sermon sur la montagne, qu'on retrouve dans le début de l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce sermon? Oui, il y a les béatitudes, heureux celui qui, heureux ceux qui, ceci, ce qui, cela. Mais de surcroît à cela, Jésus va aussi donner des instructions, va donner des instructions sur le mariage, va donner des instructions sur le rapport entre citoyens, va donner des instructions sur la prière, va donner des instructions sur l'intimité avec Dieu. Donc, une rencontre avec Dieu, chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu, c'est aussi accepter que durant ce moment d'intimité, de proximité avec Dieu, nous allons recevoir des instructions divines. Donc, premier point, une rencontre avec Dieu. Deuxième point, la montagne, c'est cet endroit où nous recevons aussi instructions de la part du Seigneur. Lorsqu'on pense à la montagne, il y a toujours cette rencontre avec Moïse et l'Éternel. Lorsque Moïse va descendre de la montagne, lorsqu'il va descendre d'avoir été pendant 40 jours dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe chez Moïse? On voit Moïse qui descend et on est obligé de mettre un linge sur son visage, tellement son visage resplendit. C'est la même image qu'on retrouve des siècles et des millénaires plus tard lorsque Jésus va passer par ce qu'on appelle la transfiguration. Donc Jésus va sur la montagne avec ses disciples, en fait les plus proches, Pierre, Jean, Jacques et André. Et là, à un moment donné, apparaissent Moïse et Élie. Et Jésus va avoir une rencontre, une conversation. Ses disciples vont l'entendre discuter avec Moïse et avec Élie. Et Pierre va dire que c'est tellement merveilleux qu'on devrait bâtir trois tentes là, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie, pour ne jamais redescendre de la montagne, pour ne pas avoir à quitter cet endroit merveilleux et cette expérience merveilleuse. Mais rappelons-nous, cette expérience, comment l'appelle-t-on dans le Nouveau Testament? Quel titre lui donne-t-on? On parle du moment de la transfiguration. Donc, la rencontre au sommet avec Dieu est aussi une rencontre de transformation avec lui. Si je veux plus d'intimité avec Christ, ça va être, oui, une rencontre, oui, la réception d'instructions de sa part, mais ça va être aussi un lieu de transformation ou un moment de transformation. Moïse redescend et il n'est pas le même. Et il y a un verset qui va dire que personne ne peut voir Dieu et rester le même. Et il en est de même pour Jésus. Ça va être un moment de gloire exaltante et même Jésus en est transformé. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous cherchons la présence de Dieu, ça doit être aussi l'occasion pour toi et pour moi de connaître une transformation dans notre vie. Donc, rencontre avec Dieu, instruction de la part de Dieu, transformation réalisée par Dieu. Lorsqu'on parle de la montagne, c'est aussi un lieu de sacrifice, un lieu d'abandon, un lieu où je m'abandonne entre les mains de Dieu. Pensons à une des premières rencontres au sommet dans l'Ancien Testament. Dieu est apparu à Abraham, il lui a dit de quitter sa patrie, d'aller au loin dans une terre qu'il ne connaît pas, mais qu'il saura lui indiquer le moment venu. Et là, à un moment donné, après que son fils Isaac soit né, lorsqu'il est encore un adolescent, voire un jeune adulte, Dieu dit à Abraham, va-t'en jusqu'au mont Morija, et là-bas tu vas sacrifier Isaac. Donc tu vas me donner Isaac. Et on connaît toute cette histoire. Abraham part avec quelques serviteurs, avec Isaac, et il dit, on va rendre un culte à Dieu, on va faire un sacrifice, puis après ça, on retournera. Arrivé au pied de la montagne, il va dire à ses serviteurs, restez là, moi et l'enfant, on va monter, puis on redescendra après avoir fait ce qu'on doit faire devant l'Éternel. Et en cours de chemin, alors qu'ils font l'ascension, Isaac va demander à son père, mais Seigneur, papa, où se trouve la bête qu'on va sacrifier? Et Abraham va dire à son fils, Dieu va s'en pourvoir une victime expiatoire va se pourvoir une bête pour ce sacrifice. Et on connaît tous l'histoire. Abraham va attacher Isaac après avoir monté l'autel et va déposer Isaac sur le bois. Et alors qu'il s'apprête à baisser le couteau, la main de Dieu va saisir le bras d'Abraham pour lui dire « Ne fais pas de mal à cet enfant, je sais maintenant que tu ne me refuseras rien. » Alors c'est un endroit de sacrifice. Isaac, dans ce don que son père fait de la vie de cet enfant, c'est un peu ce qui nous rappelle, ou ce qui est un signe avant-gardeur ou avant-gardiste, de la mort de Jésus à la croix. Jésus, le Fils de Dieu, qui est donné par Dieu en sacrifice pour le salut de l'humanité. La seule différence, c'est qu'Isaac n'est pas mort alors que Jésus a bel et bien été mis à mort. Donc la montagne est aussi un endroit de sacrifice, un endroit où on donne à Dieu ce qui nous appartient et on le fait délibérément. Et un endroit où on se donne à Dieu. Si vous regardez Isaac, on pense qu'il était en fait plus un jeune adulte qu'un enfant. Son père était déjà plus âgé que de 100 ans. On pense qu'il avait probablement autour de 120 ans lorsque le mont Morija est arrivé. Donc, Abraham, comparativement à son jeune fils, Isaac, Abraham n'est pas trop en forme. Donc, Isaac, s'il se débat, il règle le compte de son père. S'il refuse de monter sur l'autel, son père ne peut pas le prendre de force. Si son père est capable de le déposer sur l'autel, c'est parce que fiston a accepté. Et c'est l'image même de Christ aussi qui se donne pour chacun d'entre nous. Jésus va dire à ses disciples qu'il est le bon berger et qu'il donne sa vie pour ses brebis, que personne ne vient voler sa vie, que personne ne vient prendre sa vie, mais que c'est lui qui la donne. Alors lorsque je m'approche de Dieu, je dois comprendre et je dois accepter aussi que ça va être un lieu d'abandon, un lieu de sacrifice, un lieu où je dépose ce qui m'appartient entre les mains de Dieu. Et c'est là où on fait souvent l'erreur. On cherche la présence de Dieu, comme on le disait hier, pour ce que ça peut nous rapporter, pour l'expérience exaltante, voire bosante, si on veut utiliser ce terme un peu plus québécois, cette expérience qui nous fait nous réjouir, qui nous amuse, qui égaie nos sens d'une rencontre avec Dieu, alors que la rencontre avec Dieu va aussi exiger de ta part et de ma part un sacrifice, va exiger un abandon de ma personne. Je ne peux pas m'approcher de Dieu et le déclarer maître si je suis toujours maître de ma propre existence. Alors la première chose qu'on va déposer sur l'autel de Dieu, c'est notre vie, nos droits, ou ce qu'on pense être nos droits, notre volonté, nos aspirations. On va les déposer sur l'autel pour que Dieu en fasse ce qui lui plaît. Donc, rencontre avec Dieu, instruction divine, transformation divine, un temps de sacrifice, un temps d'abandon de soi. C'est aussi un temps d'alliance. À la suite du sacrifice que Abraham va faire, Dieu lui dit, voilà, je vois que tu ne me refuseras rien, que tout ce que je te demande, tu vas me le donner. Donc aujourd'hui, je fais un pacte avec toi. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. C'est un lieu d'alliance, un lieu de pacte entre Dieu et l'homme et entre l'homme et Dieu. Ça se voit dans l'Ancien Testament, mais ça se voit aussi dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous cette dernière rencontre qu'on a un peu abordée tout à l'heure. Lorsqu'on parle de cette dernière rencontre de Jésus avec ses disciples sur une montagne que Jésus avait fixée sur un point de rencontre tout particulier auquel il avait convié ses disciples, ils arrivent là-bas et qu'est-ce que va leur dire Jésus? Jésus va leur dire, vous allez partir, être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et il va leur donner le pouvoir de marcher sur l'aspic, sur le lionceau, sur le diable. Il va donner les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru, et il va dire, voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin. C'est non seulement le démarrage de l'Église, mais c'est aussi ce pacte entre Dieu et ses disciples où Jésus leur dit, ben alors que vous allez être effectivement mes témoins partout sur la terre, alors que vous connaîtrez des moments d'exaltation profonde, mais aussi des moments d'adversité profonde, je prends l'engagement que je serai avec vous et que je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la montagne est aussi un endroit d'alliance avec Dieu. Lorsque tu viens à rencontrer Christ, lorsque tu viens à communier avec Christ dans l'intimité de sa présence, cela va susciter chez toi, ou cela doit susciter chez toi, une alliance entre toi et Dieu. Quand Abraham accepte de sacrifier Isaac, il est en train de dire « Tout ce que tu peux me demander, Seigneur, tu l'auras. Je te fais confiance. Je sais que tu es capable de pourvoir. » Mais c'est aussi l'endroit où Dieu prend ce pacte avec Abraham. Alors, il est important d'avoir ces endroits avec le Seigneur, ces moments avec le Seigneur où nous faisons des vœux et nous prenons des engagements envers lui. Donc, alliance divine. Dernier point pour ce matin, la montagne est aussi un lieu de nouvelle étape, un lieu de nouveau départ, de nouveau commencement. On le voit bien entendu avec Noé au mont Ararat, après qu'il y ait eu le déluge. Donc il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, puis le soleil va briller et graduellement l'eau va diminuer, l'eau va s'assécher. Et où va échoir l'arche? C'est sur le mont Ararat. Et à cet endroit, c'est aussi l'endroit d'un nouveau départ. C'est à cet endroit où l'arc-en-ciel va être affiché comme ce pacte entre Dieu et l'homme, comme quoi il ne détruirait plus la terre à travers un déluge. Mais c'est aussi quelque chose qui marque un nouveau départ. Il n'y a plus sur terre que Noé, sa femme, et sa famille immédiate. Donc c'est un nouveau départ, un départ à frais, un départ à neuf de Noé ou de l'ensemble de la race humaine. Lorsqu'on parle du retour de Christ, le pasteur Sergio a effleuré la chose aussi dimanche, il a posé la question, mais savez-vous sur quelle montagne on nous dit que Jésus va revenir? Certains pourraient penser c'est le Sinaï, sur le mont Sion. Non, la montagne sur laquelle il va revenir, c'est la montagne sur laquelle la nouvelle Jérusalem vient se poser, c'est le mont des Oliviers. Donc, qu'est-ce que représente ce mont des Oliviers à ce moment-là? C'est effectivement l'établissement du royaume de Dieu sur terre, l'établissement de la nouvelle Jérusalem qui descend se poser ici. Et ce qui s'y passe, c'est que les normes qui régissent la planète et l'humanité connaissent un renouveau, connaissent un nouveau démarrage. Donc c'est une étape c'est un moment de nouvelle étape, c'est un moment de nouveau départ. Une rencontre avec Dieu, une rencontre au sommet, une intimité avec Dieu, une expérience d'intimité avec Dieu, ça va être l'occasion d'un nouveau départ. On disait tout à l'heure, on ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. On ne peut pas monter dans la présence de Dieu et rester le même. C'est l'occasion de faire des vœux. C'est l'occasion de s'engager à faire quelque chose pour le Seigneur. C'est l'occasion pour transformer notre existence et le focus qu'on met sur notre vie, de changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que cette pensée de monter à la montagne, de monter pour rencontrer Dieu, va revêtir différentes symboliques. Premièrement, le symbolisme d'une rencontre avec Dieu. Puis le symbolisme d'un endroit où Dieu se révèle à nous et où Dieu nous donne des instructions. Enfin, un symbolisme de transformation divine, un endroit où Dieu vient nous changer radicalement, un endroit aussi où nous abandonnons ce qui est nôtre et nous remettons cela à Dieu, donc un endroit de sacrifice, un endroit de nouvelle alliance, tant nous envers Dieu que Dieu envers nous, et un endroit où on démarre une nouvelle étape. Tu vois, tu ne peux pas prétendre vouloir rencontrer Dieu simplement pour l'amusement d'une rencontre. Tu ne peux pas tout simplement dire « je veux m'approcher de Dieu, je veux le découvrir, je veux l'expérimenter » simplement pour être riche d'une expérience, puis dire « ah, moi j'ai déjà vu Dieu, j'ai déjà entendu sa voix, j'ai déjà expérimenté telle chose ». Non, une rencontre avec Dieu a des objectifs. Ça a un objectif de te changer, de te transformer. Ça a l'objectif de te donner les prescriptions selon lesquelles tu dois vivre ta vie. Et c'est aussi un objectif de Dieu de te rencontrer pour te pousser à t'engager envers lui et pour t'amener à faire des vœux à son égard. Alors ce matin, je te pose la question, pourquoi veux-tu rencontrer Dieu? Si c'était pour la futilité de l'amusement d'une rencontre, tu fais fausse route. Cette rencontre avec Dieu se doit d'avoir un propos, une transformation, une incidence dans ta vie. Alors, je prie mon ami, je prie ma sœur, je prie mon frère, qu'effectivement tu cherches à rencontrer Dieu pour la bonne raison, pas pour la raison puérile et futile de tout simplement pouvoir te péter les bretelles en disant « moi j'ai déjà vu Dieu, moi j'ai déjà entendu Dieu, moi Dieu s'est déjà révélé à moi ». C'est fantastique s'il s'est révélé à toi, c'est fantastique si tu l'as déjà vu, c'est fantastique si tu l'as déjà entendu, mais je te pose la question, est-ce que cette rencontre a transformé ta vie ou es-tu encore la même personne? Si tu es encore la même personne, tu as perdu ton temps même dans cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre doit te transformer, doit t'améliorer, doit te pousser vers l'avant et doit te pousser à un engagement chaque jour plus intime, plus fort pour Dieu. Alors prions. Merci Seigneur de ce que tu nous parles encore aujourd'hui et tu nous permets Seigneur de ne pas chercher futilement à te rencontrer juste pour l'amusement de la chose. Assurément, une rencontre avec toi ne peut pas nous laisser impassibles. Un moment d'intimité avec toi est riche en émotions. Mais les émotions passent. Les sensations ne durent pas. Éventuellement, ça devient des souvenirs. Toutefois, l'engagement qu'on peut prendre dans une rencontre intime avec toi est quelque chose qui se renouvelle à tous les jours. Quelque chose qui guide nos vies quotidiennement. Alors je prie, oui Seigneur, qu'on puisse tous et chacun te rencontrer de façon individuelle. Dans ces lieux de rencontre où tu nous instruis, où tu nous dis ce que tu attends de nous, où tu peux nous dire, Seigneur, ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous. Que ce soit, Seigneur, des rencontres où tu nous transformes, où tu nous changes. Des endroits, Seigneur, où nous sommes aussi amenés à nous débarrasser de nous-mêmes ou des choses que nous appelons nôtres, pour remettre tout cela sur ton autel et te le donner et l'abandonner à toi. Seigneur, je prie que ce soit l'occasion de prendre des alliances avec toi, de faire alliance avec toi, de prendre cette sage décision de s'engager envers toi et envers l'avancement de ton royaume. Et que ce soit, Seigneur, des occasions qui jalonnent notre chemin et qui marque, Seigneur, l'entrée dans de nouvelles étapes. Si nous allons de progrès en progrès, si nous sommes appelés à aller de progrès en progrès, ça veut donc dire que chacune des étapes doit être une étape qui nous fait avancer vers toi. Et qu'une fois qu'on a atteint l'objectif d'une étape, tu ouvres une nouvelle porte à travers laquelle tu nous appelles et à travers laquelle, Seigneur, tu nous permets encore une fois d'être changé, d'être transformé. D'entendre ta voix avec des instructions propres à cette nouvelle étape et à travers laquelle, Seigneur, nous nous engageons envers toi et à travers laquelle nous nous abandonnons à toi. Alors merci, Seigneur, pour ces rencontres au sommet que tu fixes dans notre chemin, dans notre vie, dans notre parcours. Aujourd'hui, Seigneur, je prie que ma sœur, mon frère, mon ami et moi-même, on puisse, Seigneur, avoir cette rencontre avec toi au sommet, dans laquelle tu changes le cours de notre existence. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle deux, trois petites choses. Vous pourrez le faire dans les minutes qui viennent, même si on coupe la diffusion. On vous rappelle, c'est l'anniversaire de Didier. C'est l'anniversaire de mon père aussi. Alors, on souhaite à tous deux un joyeux anniversaire. Que Dieu les bénisse, les fortifie et les utilise à sa gloire. Et on prie que l'un et l'autre puissent avoir une rencontre au sommet. Idem pour Sampa Wende, une rencontre au sommet pour notre bien-aimé. Et on vous rappelle que ce soir, il y a aussi rendez-vous. Donc, à 19h pour nous tous, soit en présentiel, je vous invite à y être, mais aussi ça sera diffusé sur nos différentes plateformes Internet. Donc, c'est l'étude biblique du mercredi soir. Pour nous, on se retrouve demain matin pour la prochaine bénédiction matinale avec cette phrase qui termine, ou ce groupe de mots qui termine cette phrase importante. « Reste là. » L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » On va voir ce que ça veut dire de rester là. Alors que Dieu vous bénisse et à ce soir pour ceux qui seront à l'église. Sinon, à demain matin pour la prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.